Je suis qu'un modeste soignant. Je vais essayer de vous transmettre mon expérience professionnelle et personnelle. Et je vous remercie de votre attention, Jean. Embryon et fin de vie, parallèle ou raccourci qui peut surprendre, agacer, mais qui replace mon intervention donc dans sa modeste position de réflexion d'un médecin généraliste en exercice. Le médecin généraliste chrétien face à un couple hypofécond, fondement éthique et considération pratique, tel était le titre de ma thèse de médecine soutenue en 91. Elle résultait de la prise en charge aux urgences d'un hôpital d'une jeune femme ayant attenté à ses jours en raison de sa stérilité. À la même époque paraissait le document romain Donum Vitae qui répondait aux questions soulevées par les PMA. L'embryon comme être humain, personne en puissance, objet de désir et de soins, le don de l'un à l'autre des époux leur donnait-il un droit sur l'existence d'un autre? Ces questions étaient au cœur de mon travail. En même temps, quelle réponse très concrète de praticien généraliste chrétien pouvais-je apporter sans être résolument et définitivement dans une attitude d'opposition fermée, incompréhensible par des sujets en souffrance? De ce travail, j'ai tiré deux remarques. D'une part, la démarche diagnostique du praticien dans le cas d'un couple dit stérile au bout de 2 ans d'attente infructueuse, telle en est la définition, reçoit un éclairage très puissant d'une application soignée des critères éthiques contenus dans le texte romain. Tout se proportionne bien au but et à l'intention poursuivie. Premièrement, choisir de traiter médicalement ou chirurgicalement une stérilité en respectant la personne des époux et de l'enfant à venir, commande d'utiliser des outils diagnostiques pertinents, excluant le spermogramme et imposant un accompagnement pour que le couple appréhende sa fécondité dans toutes ses dimensions. Accepter de traiter une stérilité avec des moyens techniques de PMA, entraînant des manipulations de la vie humaine à ses débuts, déclenche l'usage de moyens diagnostiques impropres au respect de l'acte conjugal, réduit à une technique de reproduction parmi d'autres, rend l'homme dangereusement tout-puissant dans la maîtrise de la vie humaine à ses débuts. Deuxième remarque, la position de l'aiguille de l'Église s'appuie sur la loi naturelle, sur la nature des choses. L'intelligence est donc capable de les pénétrer, d'en tirer une connaissance transmissible, d'en dégager un bien pour l'homme. En tout cas, quelle illumination pour un jeune médecin issu d'une faculté de médecine soumise au positivisme que de découvrir qu'entre l'enseignement de l'Église et l'application dans une vie professionnelle ou tout simplement domestique se situe un niveau de compréhension, de travail réflexif où l'intelligence dotée des outils de la philosophie réaliste réalise justement la jonction entre dogme et sujet souffrant dans notre cas. Et s'il est une première lumière portée sur la nature de la personne humaine, c'est sa nature sponsale, d'être donné et qui se donne, qui l'ouvre sur une fécondité de tout ordre. Ainsi, pour moi, rejeter d'emblée la lettre apostolique Donum Vitae m'aurait privé d'améliorer ma pratique médicale, identifiant bien ces deux démarches diagnostiques, et de découvrir cette définition philosophique, anthropologique, sur laquelle l'Église s'appuie pour ses enseignements moraux. Or, cette réflexion a été le fondement de tous mes choix éthiques suivants. Quittant la médecine libérale, j'exerce depuis 2003 dans l'USP, c'est-à-dire l'unité de soins palliatifs de la clinique des Augustines de Malétroit, dans le Morbihan. Par l'expérience que confèrent ces multiples accompagnements de personnes en phase terminale, avec des complexités médicales et sociales, j'aboutis à peu près aux mêmes conclusions, mais touchant cette fois le terme de notre vie. Premièrement, la philosophie réaliste, enrichie de la psychologie moderne, nous fait découvrir la personne humaine adulte dans toutes ses dimensions, du végétatif au spirituel. Elle nous permet de distinguer les principes moraux personnalistes, les connaître, les choisir pour sa pratique d'accompagnement, les expliciter à son équipe demande du temps, de la persévérance, demande de développer une pédagogie, résumée en ces quelques termes, passer d'un malade que l'on traite à une personne qui va mourir. Nous avançons en équipe, permettant à chacun de s'exprimer, de la jeune stagiaire aux confrères spécialistes rompus à sa pratique. Nous nous obligeons à une traçabilité de nos décisions, à des prescriptions qui intègrent les bonnes pratiques médicales. la possibilité du double effet de nos drogues, parfois démesurément puissantes sur des organismes affaiblis, le renoncement thérapeutique. Nous recevons beaucoup de stagiaires pour les former à ces pratiques d'accompagnement. Nous intégrons la législation actuelle concernant la fin de vie qui recoupe bien notre pratique de l'accompagnement.